Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, dans la deuxième partie.
Et bienvenue à Sandrine Colette. Sandrine Colette, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Merci de nous rejoindre, c'est très gentil. Et vous êtes ici donc pour nous parler de votre deuxième roman, paru chez De Noël, collection Sueur Froide. Ce deuxième roman s'appelle Un vent de cendre. Et j'en profite pour dire aussi que le premier, qui était paru chez le même éditeur, Des Nœuds d'Acier, et ressorti il y a très peu de temps, au mois de janvier, je crois, au Livre de Poche. Je ne me trompe pas.
Fin janvier, presque ensemble les deux, le Poche du premier et Un vent de cendre en grand, oui.
En février. Donc, une histoire très noire dans Un vent de cendre, on commence à avoir un petit peu l'habitude, mais avant de parler du roman, juste une petite phrase de présentation de l'auteur. Universitaire à Nanterre, je ne me trompe pas.
Oui, alors là, en grandes vacances, mais il y a quelques semaines, c'était ça.
Bon, ben on vous souhaite de grandes et belles vacances. Et si je ne me trompe pas non plus, près de Chevaux, en Bourgogne.
Oui, alors ça, les chevaux, effectivement, ben, je suis pas très loin d'eux là. Il y a quelques chevaux dans les prés, et ça, c'est ma passion depuis toujours, donc ça ne me quittera pas.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on en reparlera des chevaux et ils n'ont pas forcément un beau rôle. Enfin, on va laisser... Donc, Un vent de cendre, il y a plein d'entrées possibles. Oui. Quel a été le point de départ de ce roman? Les vendanges, on va en reparler, les personnages, une histoire, un fait divers?
Alors, assez curieusement, le point d'entrée pour moi de ce roman-là, c'est la première scène dont on parlera peut-être aussi, qui est un accident de voiture.
Mm-hmm. Oui, celle-là, la première scène, on peut la dévoiler, c'est la
oui,
suite.
Oui, celle-là, elle vient très très vite. Et cet accident de voiture, l'idée m'est venue comme un flash en voyant la Mercedes d'un ami qui avait un toit ouvrant. Je me suis dit, ça serait une ouverture géniale pour un livre, quoique un peu noir.
Un peu noir, oui.
Il faut que je fasse un livre avec ça. Et donc, c'est vraiment parti de ça, et le reste s'est construit autour.
Oui, donc, cette première scène, trois amis, dont deux sont fiancés, et le troisième est amoureux en secret de la belle Laura, sont en voiture, très rapide, jeunesse complètement insouciante, et oui. la courbe de la vie complètement brisée par un accident de voiture. La jeune femme est morte, les deux autres deviennent en quelque sorte des fantômes. Ce mot de fantôme, ça vous convient à peu près?
Oh oui, assez bien, surtout pour le fiancé qui lui ne s'en remettra jamais et qui va se vivre en reclus dans son domaine de champagne, puisque c'est là qu'on le retrouve 10 ans après. Et il a en quelque sorte laissé la main et laissé la vie à cet ami qui était avec lui et qui lui est indéfectible.
Voilà, alors cette première scène montre déjà donc le passif que va avoir un des personnages principaux. Donc on n'a pas encore cité son nom, c'est Octave, en gros le maître du château, défiguré, aigri par cet accident et qui forcément a des liens plus que particuliers avec Andreas qui était le fiancé et qui donc tous les deux ont perdu la femme qu'ils aimaient dans cet accident. Octave vit dans une maison bourgeoise que vous décrivez presque comme un château.
Oui, enfin comme...
Hanté, non.
Oui, comme un château hanté. C'est le premier sentiment qu'on a en le voyant. Dans mon imagination, c'est une sorte de maison de maître. Donc c'est pas encore un château comme on trouve dans le Bordelais. Mais oui, une belle demeure bourgeoise sur un vignoble de champagne. Et puis, grise, oui. Enfin, blanche mais avec des reflets gris et cette maison tout de suite elle fait mauvais effet.
Alors il y a cette personne Octave un peu monstrueux, il faut bien le dire. On pourrait même le qualifier un peu d'une bête. Et cette bête va se retrouver en face d'une belle, Camille. Et Camille, elle ressemble étrangement, ou tout au moins c'est l'impression qu'il a, elle ressemble étrangement à la jeune femme qu'il aimait et qui est morte dans l'accident de voiture, Laura.
Oui, alors elle lui ressemble vraiment puisque Andreas et Octave s'en aperçoivent très vite et ça va à la fois raviver beaucoup de souvenirs chez l'un comme chez l'autre, mais aussi toutes ces blessures morales qui se refissurent en fait, qui se retendent. De la jalousie de l'un, de la frustration de l'autre, et puis de tout ce qui est impossible 10 ans après.
Et puis donc il y a en face la lumière avec Camille, et Camille n'arrive pas seule, elle arrive avec une bande de jeunes, on va reparler, c'est pas bénin que ça va se passer pendant les vendanges, pendant une courte période, et il y a Malo, le frère de Camille, on sent tout de suite que si un malheur devait arriver, c'est Malo qui en serait la victime, parce que Malo, c'est un peu un électron libre, c'est le frère de Camille, et donc il va être un peu jaloux, il va se méfier très vite d'Octave.
Oui, c'est alors, effectivement, c'est un électron libre, c'est un jeune bien dans sa génération. En même temps, c'est le garde-fou, puisqu'on explique assez vite que leurs parents, ces deux jeunes, sont divorcés. Et que finalement, quand les parents vont chacun de leur côté, ce qui reste dans une famille, c'est le frère et la sœur qui se sont tenus coude à coude pendant des années. Et c'est le garde-fou de Camille à Malo.
Voilà, donc tous les deux, donc il y a ces espèces de deux couples, ces deux face à face, Octave, Andreas, et Malo, Camille. Et Malo, au bout de quelques jours, donc ils arrivent pour faire les vendanges avec une bande de jeunes, ils vont retrouver aussi d'autres ouvriers. Et Malo va disparaître. Et il y a une scène très très mystérieuse près d'un étang. La nature que vous décrivez, aussi bien au niveau des vendanges, on va y revenir, mais cette scène près de l'étang ou après dans les champs, et on avait déjà cette impression dans le premier avec une forêt maléfique, c'est pas une nature agréable et souriante.
Oui, alors c'est à cause de la collection du livre en fait, parce que à titre personnel, je vis en grande partie à la campagne et j'adore ces forêts, j'adore même quand il y a peu de lumière, vraiment, j'adore la campagne, j'aime quand on voit personne, quand c'est isolé. Simplement, l'art de faire après un roman noir, c'est d'arriver à convoquer des choses qu'on connaît, mais au lieu de le faire aussi beau que moi je les vis, j'ai cherché les côtés, alors que je connais bien aussi, mais les côtés effrayants, les côtés dangereux, les côtés, voilà, le côté, la part d'ombre de la nature.
Alors il y a beaucoup, beaucoup de part d'ombre et beaucoup de symboles dans la narration, dès le début. Donc comme je parlais de cette maison dans laquelle vit reclus Andrea et un peu moins reclus Octave, il y a les pièces fermées du château, des clés qui se baladent, les miroirs. Et puis, en fait, dans le roman, on a l'impression que toutes les choses les plus importantes, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce que vous nous laissez à imaginer. Est-ce que ça a été un des buts de l'écriture ?
Oui, alors complètement. C'est quelque chose que j'avais essayé de faire aussi dans le premier et que je refais là. Je trouve que l'intérêt, c'est ce qui fait palpiter une lecture, c'est aussi la part qu'on va laisser au lecteur. Sa part d'imagination à lui, c'est pas tout lui donner tout cuit. Et puis ça me permet aussi sur certaines scènes qui sont très noires de pas tomber dans de la description soit sordide, soit vraiment glauque.
Oui, on n'est pas du tout je considère pas du tout ça comme un thriller justement, c'est vraiment un roman noir.
Oui, très très noir, j'espère, avec un tout petit peu de rose, puisque
La belle et la bête vont être attirées l'un avec l'autre, Octave et Camille, assez inexplicablement aussi.
Oui, assez paradoxalement, mais alors c'est écrit dans le roman d'ailleurs un peu, c'est un peu cette fascination qu'on a pour les monstres, c'est-à-dire qu'on peut, les monstres, on ne peut pas s'empêcher de les regarder. Et puis on peut finir par leur trouver quelque chose d'attachant, quelque chose de fascinant. Et c'est exactement ce qui arrive à Camille. Cet Octave, il a 20 ans de plus qu'elle. Il est balafré. On dit plein de choses autour de lui, autour de celui qui vit là-haut à l'étage et qui ne sort jamais. Voilà, tout ça, ça fait une espèce d'aura, une espèce de mystère qui tourne autour et qui va aller au-delà de l'apparence physique qui, effectivement, n'est pas dans les standards, n'est pas dans les canons de la beauté.
Et puis, on est aussi dans les codes du conte, oui. Malgré tout.
Oui, oui, toujours.
Toujours, voilà.
On est sur un mélange de La Belle et la Bête et de Barbe Bleue.
Oui, il y a Barbe Bleue, ah oui, ça c'est... Et des symboles encore, par exemple, dans ces trois percherons, donc là, c'est là qu'on retrouve votre passion pour les chevaux, que d'ailleurs, vous arrangez pas parce qu'ils sont très vieillissants, très vieux, ils ont été promis à un moment donné à l'abattoir. Alors, les noms des percherons, là, on est en plein dans la mythologie. Moloch, y en a un qui s'appelle Titan, le troisième Chronos... Oui. Les mythologies racontent bien les histoires humaines.
Oui, là, il y avait... en fait, les percherons participent de la noirceur du livre par ces noms-là, parce que, c'est toujours des histoires violentes dans la mythologie. Alors, Moloch en particulier.
En particulier,
il
oui.
Un rôle, lui, particulier, ce vieux cheval. Donc, ça commence déjà dans leur nom, oui. Et puis, il y a... une espèce de puissance dans ces noms-là qui fait qu'on sait quelque part, forcément, ils ont leur petit rôle dans l'histoire.
Et ces mythes, tout ce qui peut être mythologique au niveau et fantasmagorie au niveau du conte, on se rend compte, que ce soit d'ailleurs dans le premier roman ou dans le deuxième roman, que ça va tout à fait bien avec le milieu rural, tout au moins celui que vous avez envie de décrire et de nous faire découvrir.
Oui, alors c'est vrai que j'ai pensé à un moment, je me suis dit, et si c'était en ville, et si c'était voilà dans un milieu urbain, et j'arrive pas à le transposer parce qu'il me faut des grands espaces, il faut des endroits où il y a suffisamment peu de monde pour que des choses étranges puissent perdurer sans qu'on se demande trop pourquoi ça se passe comme ça. Il y a cette surveillance à la campagne. Mais il y a beaucoup plus, malgré tout, on est plus isolé, donc il y a plus de marge de manœuvre. Et puis j'ai besoin des espaces aussi. Dans le premier, c'était la forêt, là sont les vignes. Et pour installer mes romans, j'utilise énormément ces espaces et la nature.
Et justement, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de champ contre champ continuel dans le roman, avec en parallèle cette histoire... étrange, maléfique et très noire entre Octave et Camille, qui avance petit à petit, avec tout ce que le cerveau du lecteur peut imaginer et tout ce que vous le laissez à imaginer, histoire donc qu'on pressent tragique. Et puis, on a, je dirais, la banalité du quotidien, la banalité du travail de vendange, que vous me faites découvrir, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on sait tout ce que c'est, mais quand on voit la dureté, quand on voit ces vendanges en Champagne, il y a une précision de description qui est très très agréable à lire.
Oui, mais alors ça c'est chouette de l'entendre dire. Moi, les vendanges, je les ai faites au moins 6 ou 7 ans, donc je finissais par bien bien connaître le travail quand j'étais jeune. Et j'avais envie qu'en lisant ces scènes-là, les scènes de vendange, ça sert aussi à respirer justement pendant le livre. Alors, selon les goûts, soit ça perd un petit peu en tension, soit ça permet de souffler un petit peu aussi entre deux, parce que sinon ça monte durement. Et j'avais envie vraiment qu'en lisant ces pages-là, on ait envie de rire avec les gamins qui sont en train de couper le raisin, ou qu'on sente
avec la vieille
qui craque sous la dent, ou des choses comme ça.
Oui, et puis il y a aussi une belle galerie, je dirais, on serait au cinéma, je dirais qu'il y a une belle galerie de second rôle, de tout petits rôles qui apparaissent comme ça au jour le jour, qui rejoignent le petit groupe de vendangeurs et qui sont habitués, qui sont des ruraux, et ça donne une galerie de personnages très intéressants que vous arrivez en quelques lignes à très bien décrire.
Oui, il y a ça vraiment, c'est quelque chose dont moi j'avais eu l'expérience, et c'était le mélange improbable en fait entre une partie de ces ruraux qui prennent des vacances pour venir faire les vendanges, pour arrondir les fins de mois. Ces étudiants, parce que chaque année, il y a des étudiants qui viennent aux vendanges, et le mélange de ces populations complètement différentes qui vont commencer par se découvrir et puis se chahuter, enfin, et ça fait des choses détonnantes.
Alors, on a parlé de Andreas, on a parlé d'Octave, Camille, Malo. Il y a un personnage qui me semble aussi un pivot très important, qui en fait le lien, le pivot entre justement les étudiants et les anciens, entre Octave et les vendangeurs, entre la réalité et le conte, c'est Lubin. C'est le pivot de tout finalement, l'espèce de gérant pour le domaine qui travaille pour Octave.
Oui, c'est le maître de chais.
Ah, le maître de chez. Ah ben voilà, moi j'avais pas le bon vocabulaire.
Mais oui, effectivement, Lubin, c'est le lien entre tous les mondes. C'est un grand type costaud, ces gens dont on dit qu'ils sont increvables et qui travailleront jusqu'à être centenaires. Et lui, il tient à la fois, enfin, il connaît les patrons. Il fait le lien entre les vendangeurs quels qu'ils soient et puis les ouvriers qui sont là à l'année, le pressoir, c'est un peu lui qui va tout gérer finalement pour le domaine même. Mm-hmm. Et puis comme on a affaire à beaucoup de taiseux, Octave et Andreas, on les entend pas ou peu en fait, ils sont toujours très, enfin ils resteront abîmés, c'est Lubin qui fait face.
Et c'est Lubin qui sait. Ça, c'est très important. Il sait plein de choses. Il a des connaissances, évidemment, en tant que maître de chais pour les vendanges, la vinification, les conseils qu'il donne. Mais il y a plein d'autres choses qu'il sait et que nous ne saurons jamais ou peut-être pas. Voilà, c'est pour ça que ce personnage est intriguant aussi.
Oui. Et puis là, lui aussi, malgré tout, cette présence silencieuse, qui fait qu'il y a plein de choses qu'il garde et c'est exactement ça. C'est, même au lecteur, il dévoilera pas une certaine partie des choses.
Et donc, pour clôturer, parce que malheureusement, l'émission va bientôt terminer, moi, j'ai pensé, mais c'est encore une fois peut-être un fantasme de lectrice, j'ai l'impression que le thème principal du roman, à plusieurs niveaux, c'est un roman sur la souffrance, sur les souffrances. Les souffrances d'Octave, les souffrances de Camille qui va s'inquiéter pour son frère à partir du moment où il disparaît, jusqu'à la souffrance au travail des vendangeurs. C'est un moment terrible, les quelques jours passés à être courbé, à se tailler les mains avec les sécateurs. Il y a plusieurs niveaux de souffrance.
Oui, alors je n'ai pas peut-être réfléchi comme ça, mais effectivement, je sais que ça passe énormément. Il y a cette souffrance comme ça. L'idée de départ, elle était vraiment autour, effectivement, de la souffrance. Et c'était celle d'Octave et d'Andreas, notamment. Et comment est-ce que ce qui se passe cette année-là aux vendanges fait qu'il y avait peut-être, ou il y a une chance pour que l'un ou l'autre ou les deux reviennent au monde, et donc reviennent de ces blessures physiques, psychologiques surtout, qui les marquent toujours. Et puis la façon dont ce retour au monde est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et donc là-dessus, on est effectivement sur des gens qui ont été trop abîmés par leur souffrance.
Même, et dans votre roman, même les percherons souffrent. Ils sont perclus de souffrance, de rhumatisme, ils sont en fin de vie pour certains. Donc,
oui, ils sont des chevaux, oui.
Pauvres bêtes quand même, pauvres percherons.
Oui, mais malgré tout, c'est la vie. Hein. Ils vieillissent tous et... Et ceux-là, il y en a en tout cas un qui est très vieillissant et puis les autres, il leur reste des belles années.
Et donc, au jour dernier, est-ce que ça ne va pas être seulement les percherons qui trouveront une rédemption? Parce que la rédemption, justement, vous parliez de ce qu'on va trouver Octave et Andreas, mais cette rédemption, peut-être seuls certains animaux pourront la trouver.
Ah, disons qu'à mon sens, il y a qui méritent de la trouver.
Ben, ce sera une très belle conclusion à cet entretien. Merci beaucoup.